Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir, pardon, mon micro n'était pas allumé. Ah. Il est 19h08 et c'est l'heure du Canu Info. Alors, de quoi on parle ce soir ?
Et ce soir, écoutez, 160 morts au Burkina, qui, comment, pourquoi, c'était dans la nuit de vendredi à samedi dernier.
Ensuite, il y a une réunion interministérielle qui a eu lieu cet après-midi sur le thème, je vous le donne dans le mille, de l'immigration.
Ah ! Et écoutez, on entend beaucoup en ce moment les flics qui se plaignent de mourir toujours dans leur métier. En réalité, on va voir que les flics meurent vraiment, vraiment pas tant que ça.
Et ensuite, on aura une décision de la CNDA, de plus en plus inquiétante pour les personnes LGBTQI+.
Et la CNDA, ça veut dire la Commission Nationale du Droit d'Asile.
Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Et on commence par le Burkina.
Et alors oui, et alors figurez-vous, avant d'en venir au Burkina, qu'il paraît que quelqu'un a pris une claque hier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Par ailleurs, 160 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village dans le nord du Burkina Faso dans la nuit de vendredi à samedi. Et bien sûr, la presse française a su hiérarchiser l'importance de ces deux événements, doser la quantité d'espace à leur consacrer en fonction de leur gravité. Alors nous, on est mauvais pour évaluer la gravité des trucs. On fait n'importe quoi des fois, d'où le fait qu'on va parler de ces Africains, Africaines tués dans le village de Solane, alors qu'on va pas trop s'attarder sur ces histoires de gifles, finalement.
Ah, tu m'as fait peur.
Ouais. Et donc c'est vers 2h du matin, on le sait par un survivant, que les motos sont arrivées à Solane, dans le nord du Burkina, dans la zone sahélienne. Le bruit des groupes de motos qui arrivent, c'est souvent un très 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 mauvais présage. On peut revenir, on va revenir un petit peu en arrière, pour expliquer d'où, enfin ces histoires de terrorisme, ça a une histoire au Burkina, mais une histoire qui finalement n'est pas si vieille que ça, puisque jusqu'en 2014, le Burkina avait un président qui était très 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 ami de la France, Blaise Compaoré, un président qui a su rester au pouvoir pendant une trentaine d'années, élection après élection, au point que quand les Burkinabés ont trouvé qu'il fallait vraiment que ce président se barre, plutôt que de compter sur l'élection suivante, tout le monde avait plutôt descendu dans la rue et l'a foutu dehors. Ça, c'était en 2014. Un des soucis qu'il y a eu après cette révolution, c'est que ce président Blaise Compaoré, celui qui a été dégagé, avait, en tout cas c'est ce qui se disait, avait des contacts et des deals avec les djihadistes du Sahel. Fourniture d'armes, peut-être aussi fourniture de pognon contre le fait que les groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique n'agissent pas sur le sol national. Mais une fois que Compaoré a été dégagé, de fait, il n'y avait plus de deal et c'est là que les ennuis ont commencé. À partir de 2015, les attaques se sont multipliées. Alors ça a été plusieurs sortes d'attaques, ça a été parfois jusqu'au cœur de la capitale, à Ouaga, des attaques contre des expatriés européens, contre des touristes, contre des hôtels de luxe. Mais en nombre de gens qui sont... Alors en titre dans la presse européenne, c'est ce qu'on a le plus entendu. En nombre de gens qui sont morts, c'est quand même plutôt dérisoire par rapport aux autres types d'attaques qui ont eu lieu plutôt contre des villages éloignés de la capitale ou des zones de pouvoir, et à chaque fois des massacres, des gros massacres éventuellement. Enfin, là, en l'occurrence, 160, c'est quand même un record, quoi. Quand je parle de gros massacres avant, c'était 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. là, on vient d'atteindre des chiffres qui sont encore très très différents. En face, les habitants et habitantes des zones menacées ont répondu parfois par d'autres massacres. Mais alors, massacre de qui ? En fait, personne n'allait s'attaquer à des camps de djihadistes. Il se disait par exemple que les... Enfin, il se disait, puis il se dit toujours, que les djihadistes recrutent principalement chez les Peuls. Alors, ma foi, des attaques de villages Peuls ont eu lieu en représailles à des attaques d'autres villages. Et là aussi, des morts parfois par dizaines. Dans les deux cas. Enfin, tout le monde se fait tuer et les gens sont montés les uns contre les autres par les djihadistes qui en réalité jouent aussi le truc, c'est-à-dire qu'en réalité ils recrutent pas du tout que des peuls, mais ils envoient leurs unités peuls massacrer des villages où il y a pas de peuls et leurs unités d'autres ethnies massacrer des villages peuls, ils le font aussi, mais ce qui fait qu'une fois qu'eux sont partis, les survivants des différents villages ou les gens des villages à côté, eux-mêmes vont se venger sur d'autres villages. Jamais ils vont chercher les terroristes là où ils sont, parce que eux, pour le coup, ils sont très lourdement armés. C'est toujours ces tactiques de djihadistes, mais qui sont aussi les trucs qui font dans les sociétés européennes, c'est-à-dire d'essayer de monter les gens les uns contre les autres, de manière à ce qu'eux, ils soient comme une étincelle. Mais de manière à ce que les hostilités montent au bout d'un moment, qu'ils aient même plus besoin d'être là. Et il y a qu'à regarder un peu autour de nous l'état de la société française. Il y a ce truc-là, ça marche en réalité, et ça marche aussi au Burkina. Alors, l'ancien président Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina, prenait soin de son armée, mais pas vraiment de toute l'armée. En réalité, il prenait soin juste de ce qu'on appelait la garde présidentielle. Et le reste de l'armée était finalement plutôt mal organisé, mal équipé, mal payé et très mal déployé dans le pays. Résultat, là-bas, là-haut, dans le nord, personne ne pouvait compter sur une protection efficace de l'État central. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a des milices qui ont été organisées. Il y a eu différents temps dans l'organisation de ces milices. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des Kolgwe-Ogo, qui sont une structure en réalité ancienne, qui luttait contre les voleurs de bétail, un truc un peu ancestral, tribal, tout ça, là. Mais les Kolgwe-Ogo ont été remis au goût du jour il y a quelques années et ont cherché à défendre les villages. Les défenseurs de l'état de droit au Burkina les voyaient d'un mauvais œil. Parce que pour le coup, c'est ça, c'était des gens qui se défendaient sans avoir de mandat, sans être... Enfin, c'était pas la police, c'était pas l'armée non plus. Et puis, il faut bien dire que les Kolgwe-Ogo faisaient pas toujours dans la dentelle non plus. Et il y a eu un sacré nombre de bavures, il y a eu des gens qui ont été attrapés sur des soupçons potentiellement extrêmement vagues. Enfin, il y a vraiment un côté western, un côté, il y a quelqu'un qui passe par là, on le connaît pas. Par ailleurs, c'est un moment où il vient d'y avoir une embrouille. Bon, on le chope et on le torture toujours un petit peu pour voir ce que ça va donner. Des fois, il en meurt, mais bon, on fait ce qu'on peut. Du coup, effectivement, du côté de Ouagadougou, il y avait plein de gens qui considéraient mal ces Kolgwe-Ogo. Et d'un côté, il y avait de quoi. En même temps, habiter un village... Dans le Sahel du Burkina, la partie burkinabé du Sahel, c'est quand même un grand risque de voir débarquer une colonne de motos et de bons hommes avec des kalachnikovs qui vont tuer tout ce qu'ils trouvent. Alors c'est vrai que vu d'ici, mais même vu de Ouaga, c'est un peu compliqué de condamner les organisations d'autodéfense populaire, même si c'est aussi un peu compliqué de dire juste que c'est cool et que c'est bien ce que les gens font. C'est vraiment une situation de merde. Bien sûr, tout ça, c'est dans la zone où se déroule l'opération antiterroriste de l'armée française, l'opération Barkhane, qui est dans ce coin-là depuis, en tout cas la présidence de François Hollande, 2013 peut-être, 2014. Mais il y a quand même un paquet de gens au Burkina qui finissent par considérer que l'armée française est quand même bien plus là pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières, l'approvisionnement de l'Europe en matières premières, plutôt que pour protéger qui que ce soit. Bref, il y a moins d'un mois aujourd'hui, le ministre de la Défense du Burkina, un gars qui s'appelle Chérif Sy, s'est rendu à Séba. Séba, c'est juste à côté de ce village de Solane dont on parle aujourd'hui. Et il y était allé pour faire le malin, pour dire, voyez, moi je suis venu ici, c'est en plein Sahel, il n'y a pas de problème, la situation est revenue à la normale, il n'y a plus de risque. Bon, visiblement, les djihadistes, sur ce coup-là, ont voulu un peu lui prouver que ce n'était pas la peine de faire le mal. Et donc, ces djihadistes sont arrivés dans la nuit et pendant 3 heures, ils ont mitraillé. Ils ont cherché les gens dans les maisons, ils ont tué tout ce qui leur tombait sous la main. Alors, il faut bien capter que leur première cible, et ça aussi, c'est un des enjeux de cette histoire, ça a été la base des VDP. Les VDP, c'est quoi ? C'est les volontaires pour la défense de la patrie. Bon, le nom ne fait pas tellement rêver. Mais en tout cas, voilà, c'est la dernière version en date de ces sortes de milices villageoises. Sauf que là, c'est pas des milices villageoises, administrativement en tout cas, c'est plutôt des auxiliaires de l'armée. C'est que l'armée leur donne des armes, alors les armes mâles, les entraîne un petit peu et leur donne une sorte de mandat. Bon, en gros, c'est quelques jeunes avec des fusils de chasse qui sont censés défendre les villages en cas d'attaque. Il faut bien dire qu'ils sont pas très nombreux, ils sont mal armés, et que quand les djihadistes arrivent, eux, ils arrivent à moto avec des kalachnikovs, et que c'est autre chose en face, quoi. La presse burkinabé note que les attaques des derniers mois visent très souvent, prioritairement, les VDP. Donc ces jeunes avec les fusils, et c'est vraiment, l'analyse un peu évidente que tout le monde fait, c'est que c'est pour montrer aux villageois que c'est surtout pas la peine d'essayer de se défendre, parce que c'est ça qui va plus attirer les tueurs. On peut aussi noter que le village de Solane se trouve juste à côté d'une mine d'or, comme il y en a plusieurs au Burkina, et c'est une mine d'or exploitée par des orpailleurs, pas par une grande compagnie internationale qui, elle, potentiellement, aurait sa sécurité privée. Là, les orpailleurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les artisanats de la recherche d'or. C'est vraiment pour le coup, pareil, encore une fois, c'est un peu western. Il faut imaginer des bonshommes tout seuls avec leurs pioches et... tout seuls, ou en tout cas, ils sont pleins, mais chacun bosse pour soi, quoi. À chercher des pépites.
De manière artisanale, quoi.
C'est ça. Les sites d'orpaillage n'ont pas été épargnés par l'attaque, mais en fait, c'est-à-dire ni les sites, ni les orpailleurs qui, eux, visiblement, de ce que j'ai compris en tout cas, dorment vraiment à la mine ou à côté de la mine, ni ce qui est juste un petit peu plus loin, le village où il y a les femmes et les enfants des orpailleurs. Et pareil, en fait, tout le monde a été attaqué et massacré dans ces deux cas. Alors d'ici à penser que le vrai but de l'attaque serait le contrôle des mines, c'est pas impossible. Mais c'est pas impossible, et d'un côté, c'est. D'un côté, rien n'est sûr, mais d'un autre côté, c'est peut-être confirmé par le fait que, jusqu'ici, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque, aucun groupe djihadiste. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, qui est très actif dans le coin, a même pondu un communiqué pour dire qu'eux, ils n'avaient rien à voir avec cette histoire-là, avec ces 160 morts, les 160 morts de Solane. L'autre groupe djihadiste du coin, il s'appelle l'État islamique au Grand Sahara, donc comme son nom l'indique, eux, ils sont affiliés à Daesh. Et ces deux groupes, l'un Al-Qaïda, l'autre Daesh, c'est des groupes rivaux. Des fois, quand ils se rencontrent, plutôt, ils s'aiment pas bien, voire des fois, ils s'entretuent un petit peu. Pas assez. Le fait ici que le seul communiqué sur cette attaque, c'est un communiqué pour ne pas revendiquer un massacre, c'est quand même plutôt assez original. Assez original dans le Sahel, puisque d'habitude, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et le journal L'Observateur Palga qui nous raconte cette non-revendication, cette dérevendication, nous rappelle que, et je cite, « La rivalité entre les groupuscules est d'ailleurs si exacerbée que cet acquis sera le plus atroce, quitte à revendiquer tous les deux parfois un même carnage, comme ça a été le cas le 11 novembre 2020, en pleine campagne, quand le GSIM, donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahel, ont tour à tour revendiqué une embuscade qui avait coûté la vie à 14 de nos soldats aux environs de Tinakof. » Le journal en ligne qui s'appelle lefaso.net, pour sa part, pense que de toute façon, personne ne revendiquera l'attaque, et il explique pourquoi. Ils disent l'État islamique, mais pas plus que Al-Qaïda, ne revendiquera...
Faut pas boire de coca avant l'émission.
C'est ça. L'État islamique ni Al-Qaïda ne revendiqueront ces attaques et les différentes boucheries commises contre les populations sahéliennes, car elles ne servent pas sa propagande de lutte contre les mécréants étrangers et les impérialistes et leurs soutiens locaux. Ce climat de terreur qu'il vise à instaurer est destiné aux Sahéliens et uniquement aux Sahéliens. C'est une bataille locale qui ne servira pas comme gloriole internationale. L'État islamique ne veut pas une publicité extérieure sur ses crimes, car les populations innocentes tuées sont en majorité des musulmans. Il veut imposer son pouvoir par la force et la terreur aux populations. Et donc chacun de ces deux journaux, l'Observateur Palga ou le Faso.net, comme d'autres journaux du Burkina, l'Événement ou d'autres, soulignent que le pouvoir central continue à considérer ces attaques dans le Nord comme une fatalité, malheureuse certes, mais contre laquelle il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis ces deux journaux s'attardent aussi sur le fait que l'armée burkinabé, ça a l'air d'être... a l'air d'être vraiment très mal foutu, a l'air de consacrer beaucoup plus d'énergie aux querelles de chefs, de différents généraux, chefs d'état-major et tout ça, que à s'organiser contre les djihadistes. Alors moi ici, moi qui vous parle de la Croix-Rousse, moi qui ai l'habitude de savoir globalement quoi penser de tout ce que je raconte à ce micro, bah cette fois je dois dire que j'ai pas grand-chose à en dire en plus, parce que il y a plein de trucs problématiques dans ce que je viens de raconter. C'est que plusieurs fois j'ai parlé de l'armée comme quelque chose qui pourrait être un recours, c'est pas vraiment mon habitude. Là, on se trouve quand même dans des situations un peu incroyables, c'est difficile. Il y a juste une chose que je sais à peu près, c'est que 160 personnes tuées à coups de Kalachnikov. On ne sait pas combien d'autres personnes blessées. C'est un événement assez important pour qu'on ne l'oublie pas, même si ça se passe en plein Sahel, dans une zone où on sait que la valeur médiatique d'une vie humaine n'est pas bien lourde.
Alors, eh bien, on retourne en France et plus précisément à Paris, puisque cet après-midi s'est tenue, ou se tient encore, on ne sait pas bien, une réunion avec Macron, Darmanin, Dupond-Moretti et Jean-Yves Le Drian. Alors Jean-Yves Le Drian, on le rappelle, c'est, sous les autres on sait, c'est le ministre des Affaires étrangères, sur le thème de l'immigration. Voilà, bon, donc après la sécurité, hein, l'immigration vient en général juste derrière. Durant son mandat, hein, on sait plus trop à quel moment, mais en tout cas, il avait fait une promesse, Macron, quand il était en chasse sur les terres de l'extrême droite, il s'était engagé à ce que d'ici la fin de son mandat, 100% des OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, débouchent sur une expulsion effective. Alors ça, on sait, c'est un peu le gros truc des... de l'extrême droite, de la droite radicale, de tout là, c'est de dire ah mon Dieu, on distribue tant d'OQTF chaque année en France et il y en a seulement pas beaucoup qui sont mises à exécution. Par exemple, hein, quand même, depuis, en gros, ce chiffre varie très peu. Depuis des décennies, on oscille entre 15 et 20% d'exécution d'OQTF. Et en fait, il y a tout un tas de raisons à ça qui ne dépend pas du laxisme des gouvernants, parce que comme ça fait des décennies et des décennies, quand même, on est passé de gouvernement répressif en gouvernement répressif, et ce chiffre n'a pas beaucoup bougé. Alors, par exemple, un des facteurs, c'est qu'une OQTF est valable un an. Et pendant ce temps, il peut y avoir plusieurs choses qui s'y passent, notamment une annulation par un tribunal de l'OQTF pour des raisons procédurières ou pour des raisons de fond du dossier. Par exemple, un changement de situation de la personne. Une personne peut se marier, avoir des enfants, ce qui rend difficile, voire impossible, voire illégal, une expulsion. Pour expulser une personne, il faut pouvoir le plus souvent la placer en centre de rétention administrative. Et une fois dans le centre, bah, il faut encore qu'on prouve sa nationalité et que le pays en question accepte de lui délivrer un laissez-passer. Une autre raison pour un chiffre si faible pour nos politiques, c'est que si la personne qui reçoit une OQTF n'est par chance pas placée en centre de rétention, bon, elle se retrouve un peu, on peut dire, noyée dans la masse, surtout si elle habite une grande agglomération. Et fort heureusement, il y a encore des moyens de passer au travers des mailles du filet. Bon, dans tout ça, on voit bien quels sont les leviers potentiels du gouvernement, en tout cas ce qui risque d'être abordé dans cette réunion. La première, bah, ça va être de mettre la pression sur les pays tiers pour qu'ils lâchent très facilement des laissez-passer. Alors, j'en rappelle très brièvement ce que c'est que ces laissez-passer. C'est que si vous finissez en centre de rétention et que vous n'avez pas votre passeport, c'est-à-dire que si vous avez votre passeport, en fait, on n'a pas besoin de prouver votre nationalité puisque vous avez le papier qui l'approuve. On vous envoie, on fait une espèce de mini-enquête sur vous, on vous regarde un peu sous tous les angles pour se dire... Alors, cette personne, elle est plutôt doux, voilà. Donc, on fait des suppositions. Après, on vous balance au consulat du pays supposé où le consul se déplace au centre de rétention. Vous regarde un peu sous toutes les coutures, regarde un peu son ministère des Affaires étrangères à lui et lui dit, vas-y, accepte tant de personnes ou accepte pas tant de personnes. C'est pas grave s'il est pas vraiment de chez nous ou refuse parce que faut qu'on mette la pression pour telle et telle raison. Alors, en 2013, par exemple, d'après des chiffres que j'ai trouvés sur Libération à la rubrique Check News, et on imagine que ces chiffres, grosso modo, n'ont pas beaucoup changé, sur 15 218, alors je cite le gouvernement, échec d'éloignement, hein, ou réussite, suivant du côté, quel côté on se place, 19,7% sont imputables à une absence de délivrance de laissez-passer par un État tiers. D'après le Figaro, début juin, Castex avait largement abordé cette question à Tunis, la Tunisie étant connue de longue date hein, pour ne pas être très complaisante sur la délivrance de ses laissez-passer. Hein, il se murmurait même à l'intérieur des centres de rétention que si tu n'avais pas ton passeport, tu avais plutôt intérêt à dire que tu étais tunisien et avoir de grandes chances d'avoir un refus de laissez-passer. Ne prenez pas cet avis comme comptant aujourd'hui, je ne sais pas du tout où ça en est. Mais c'est aussi le cas pour l'Algérie et le Maroc. Alors c'est un enjeu stratégique fort, ce que je disais. Suivant les relations diplomatiques du moment, des pays acceptent plus ou moins facilement ou plus ou moins difficilement la délivrance du sésame. Sur ce coup, Macron envisage par exemple de restreindre la délivrance de visa à ces pays. Donc voilà, donc quitte à foutre quand même tout un tas de gens dans la merde. Donc voilà, c'est un peu ça les enjeux, c'est de dire bon bah là vous acceptez facilement de nous délivrer ce truc et nous on lâche un peu plus de visas ou on vous restreindra un peu moins les visas.
À l'époque où Sarkozy était président, il avait essayé une grande négociation avec avec le Mali en particulier pour qu'il veuille bien récupérer tous les noirs dont on ne saurait pas bien quoi faire.
C'est ça, c'est qu'il y a quand même tout un tas d'histoires où les gens se retrouvent expulsés dans un pays où, avec lesquels ils ont à peu près zéro attache.
Pour lesquels la couleur de leur peau vaut généralement un certificat de nationalité.
Exactement. Autre levier, hein, c'est la question donc, des contrôles d'identité. Donc là, ça rebondit quand les gens se retrouvent un peu noyés dans la masse avec une OQTF et qu'ils ne sont donc pas en centre de rétention. Alors on imagine hein, quand même là derrière le souhait de rendre des procédures plus rapides et moins complexes à mettre en œuvre, avec à la clé, je ne sais pas, par exemple, un affaiblissement du contrôle judiciaire, hein, d'où peut-être la présence de Dupond-Moretti à cette réunion pour lui demander son aval qu'il donnera, on n'en doute pas. Avec, pourquoi pas, des délais de recours réduits à peau de chagrin et un élargissement des compétences policières que là, tout le monde s'accordera à donner avec plaisir. Comme il reste un peu moins d'un an à Macron pour réaliser une promesse intenable et de fait, enfin, je veux dire, même complètement absurde, que la thématique de la sécurité et de l'immigration sont les sujets favoris de chaque campagne présidentielle. On imagine qu'il va sortir l'artillerie lourde sur ce thème. Affaire à suivre.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et on va parler police.
Et on va parler police puisque... payer pour servir, pas pour mourir. C'est ce que disaient
les animateurs et animatrices de Radio Canu, non ?
C'est ça. Bon, pour servir, non, pour payer. Il y avait plusieurs mots qui ne vont pas dans cette phrase pour nous. Mais par contre, les flics avaient écrit ça sur une des banderoles à ce fameux grand rassemblement il y a 3 semaines, celui qui a fait tellement parler de lui. Et de chouigner que la violence contre la police est de plus en plus grave, qu'il n'y a plus de limites, que les délinquants, les terroristes, ils tuent des flics comme jamais, on n'a jamais vu ça, mon Dieu. Alors j'ai trouvé 2 articles complètement différents sur des médias, ma foi, relativement différents, puisqu'il s'agit pour une part de parislutte.info et pour l'autre du journal Le Monde, c'est-à-dire si je suis éclectique dans mes lectures. 2 articles qui viennent remettre un peu tout ça en cause. Puisque dans le monde d'aujourd'hui, on apprend que les flics meurent 2,5 fois moins en mission ces dernières années que pendant les années 80. Et donc là, je ne parle pas du 19e siècle, hein, je parle des années 80, du 20e siècle. Alors ma foi, c'est cool d'avoir une statistique, même si en vrai, on le savait, on pouvait s'en douter. Enfin, nous qui ne sommes pas flics. Il y a quelques années, les flics savaient que quand ils s'engageaient, ils choisissaient un métier dangereux. À cette époque, il y avait des braquages de banque en particulier qui se terminaient quand même pas si rarement que ça en fusillade. Et les flics, ma foi, se faisaient shooter potentiellement dans ces circonstances-là. Pas que. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gangsters, globalement, sortaient leurs flingues en réalité un peu plus facilement qu'aujourd'hui. Et personne trouvait ça très dingue. Ça faisait partie du métier de flic. Aujourd'hui, bon, les banques sont à peu près imprenables. Le gangstérisme s'est plus consacré au trafic de drogue et, résultat, moins de fusillades avec les decks. Et résultat annexe, le ou la flic de base s'imagine que son métier, c'est toujours d'exercer la violence sur les autres, jamais de la subir. Et si l'un ou l'une de ces flics se prend une balle, c'est le scandale du siècle, avec des manifestations, des représentants de tous les partis qui vont dire « Ah, nanana, il faut que la police ait un droit de regard sur les peines, tout ça. Bon, soulignons quand même que, dans le même temps, les flics tuent ceux qui croisent leur route, non pas autant que dans les années 80, mais en fait notablement plus. Entre les coups de feu partis un peu n'importe comment, les prises d'étranglement ci ou ça, les pare-chocages en tout genre. Et ben, alors, à part l'année 1986, qui est un cru particulier, où Charles Pasqua était devenu ministre de l'Intérieur pour la première fois, et là, les flics ne se sentaient plus, mais à part cette année 86, les quatre dernières années, aujourd'hui, sont celles où les flics ont tué le plus de monde depuis 1977, selon les chiffres de Bastamag. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut considérer que le métier de flic est malgré tout un métier dangereux? Un métier où on meurt particulièrement par rapport à d'autres métiers, par exemple? Et c'est là que j'en viens à mon deuxième article. L'article de parilud.info qui s'appelle « Accident du travail, mieux vaut être flic que ouvrier ». Eh bien, il montre qu'en fait, non, flic, c'est pas dangereux. Et ma foi, l'article est vite résumé, puisqu'il est surtout résumé par une petite illustration avec des carrés de tailles différentes et le nombre de personnes qui meurent selon les métiers pour l'année 2020. Alors, en fait, le nombre d'accidents du travail avec à chaque fois le nombre de décès. Et ben, on voit que ouvriers et artisans du BTP, c'est le truc énorme. 269 accidents du travail, dont 75 décès. 75 décès, ça fait quand même 1,5 par semaine. Oui, c'est ça, 1,5 par semaine. Les ouvriers d'industrie, donc c'est autre chose que le BTP, hein, c'est des ouvriers aussi, mais et là, c'est 135 accidents du travail, dont 28 décès. Les agriculteurs et ouvriers agricoles, ah bah oui, on meurt aussi dans les campagnes, on meurt aussi dans les fermes. 97 accidents du travail, ce qui est moins, mais quand même, dont 60 décès. Ça veut dire qu'eux, quand ils se font mal, en tout cas quand ils le déclarent comme accident du travail, généralement c'est qu'ils sont morts. Les chauffeurs routiers, chauffeurs livreurs, 88 accidents du travail, dont 45 décès. Les bûcherons et les élagueurs, 46 accidents du travail, dont 15 décès. Tout ça, c'est des accidents du travail de gens qui taffent, quoi. Les soignants, les agents hospitaliers, 40 accidents du travail, dont 40 décès. Alors, je sais pas bien toujours comment les statistiques sont faites, mais en tout cas, 40 décès, c'est sûr. Les militaires et les gendarmes, on arrive à 27 décès. Et puis, c'est de plus en plus difficile à lire parce que c'est de plus en plus petit. 18 marins-pêcheurs qui ont eu des accidents du travail, dont 10 décès, et 15 agents de police. On disait 75 ouvriers et ouvriers artisans du BTP. On disait 60 agriculteurs, ouvriers agricoles, encore 30 ouvriers de l'industrie qui sont morts à chaque fois, 45 chauffeurs routiers, 15 flics. Et ben voilà, la prochaine fois que vous entendrez un flic chialer sur la délinquance, le bon vieux temps où on respectait la police, les horribles risques du métier, cette prochaine fois, évitez de lui dire tout ce que je viens de vous raconter, ou alors assurez-vous des possibilités de fuite que vous aurez quand la discussion s'envenimera.
Canu Info.
Et on va parler CNDA, Commission nationale du droit d'asile, et c'est l'ARDIS pour l'Association pour la défense des droits des personnes LGBTQI+ à l'immigration et au séjour qui va nous en parler. Elle pointe du doigt l'association des dérives de plus en plus fréquentes dans les décisions rendues par la CNDA, avec à la clé une régression du droit d'asile pour ces personnes. Plusieurs exemples sont montrés. Le cas d'un ressortissant sénégalais homosexuel dont la Cour a reconnu, certes, son appartenance au groupe social LGBT au Sénégal, que certes, l'homosexualité est interdite et peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement au Sénégal, mais, car il y a toujours un mais avec la Commission nationale du droit d'asile, les persécutions dont la personne dit avoir été victime ne sont pas assez précises. Donc, c'est-à-dire que là, la Cour reconnaît à peu près tout, que la personne se trouve dans une situation au mieux très inconfortable, mais risquant la prison. Au pire, ayant subi des persécutions, mais qu'il n'arrive pas à prouver. Mais voilà, du coup, rejette son recours. Dans un autre cas, c'est le cas d'une femme lesbienne d'origine congolaise qui demande l'asile. Le refus lui a été justifié car elle a malgré tout réussi à vivre de manière habituelle au Congo pendant plusieurs années. Ah. Voilà, c'est dingue. C'est-à-dire que, en fait, on imagine que quand même ces gens, les juges de la Commission nationale du droit d'asile, voient passer tout un tas de situations, ont un regard un peu précis, ou en tout cas ont un regard sur ce qui se passe dans les pays, et que oui, ça veut, enfin, être homosexuel dans certains pays, ça veut pas forcément dire se faire lyncher au bout de sa rue, mais c'est quand même dans tout un tas de pays ultra hardcore et ultra difficile à vivre. Et alors là, on leur demande un peu, je pense, de vivre des trucs qui pourraient faire la une de tous les médias, sauf que bah souvent c'est pas ça le cas, et c'est pas ça qui est compliqué. Par exemple, là, la personne, en fait, elle dit qu'elle était seule et rejetée de sa famille, et ben en tout cas la CNDA jugeait que c'était que un sentiment de solitude et de rejet de sa famille. C'est-à-dire ce qui fait quand même beaucoup, hein, pour juste une orientation sexuelle. Pour les avocats, ce qu'on demande aux personnes LGBTQI+ est contradictoire. D'un côté, ils doivent prouver leur homosexualité ou transidentité, ce qui n'est déjà pas forcément simple et assez enfermant comme principe. Mais en plus, s'ils ont le malheur soit de vivre comme tel, on peut leur renvoyer que bon bah c'est pas si grave, vous arrivez quand même à vivre malgré tout. Même si c'est illégal dans votre pays. Mais d'un autre côté, si la personne vit cachée, eh ben il y a de grandes chances qu'elle ne soit donc pas pourchassée pour ce que les autres ne peuvent pas savoir. Donc la personne ne risque rien. Donc on lui refuse, ne risque rien de manière supposée, le droit d'asile. Pour la CNDA, l'appartenance ne suffit donc pas. Il faut qu'il y ait des risques de persécution réels, que la persécution pénale n'est pas suffisante. Hein, ce que je disais tout à l'heure, il faut que la personne risque en gros un lynchage ou la mort au coin de sa rue et réussisse en plus à le prouver. Pire, il y a le cas d'une personne en février 2019 à qui la CNDA reconnaît son orientation sexuelle, mais révèle que, je cite, ses propos ne laissent pas penser qu'il prenait des précautions particulières pour maintenir secrète son orientation sexuelle. Enfin, vous imaginez un peu ce qu'on est en train de demander aux gens.
S'il avait pris des précautions particulières, comme il les aurait prises, ça aurait bien été la preuve que c'était possible et que donc c'était pas la peine.
Il pouvait vivre librement, ou en tout cas librement caché, ce dont il avait envie. Comme le souligne le site Infomigrant, la CNDA est en contradiction avec la Cour européenne, la Cour de justice européenne, puisque pour elle, dans un arrêté de 2013, à partir du moment où il existe une législation réprimant l'homosexualité par une peine d'emprisonnement, les craintes raisonnables de persécution est établie.
Ce qui semble, comment dire, évident.
C'est ça, ouais. Pour une fois, il y a des trucs où on pourrait se dire, bon, en fait, moi j'appartiens à une communauté de personnes où, là vous avez le texte de loi devant vous, cette communauté subit de la répression là-dessus, et ben non, voilà, on leur demande un peu plus. Oui, pour l'ARDIS, là, pour cette association, il s'agit d'une régression à bas bruit du droit d'asile pour les personnes LGBT+. Selon l'association, on assiste à une multiplication, en plus de tout ça, hein, des rejets de recours CNDA sur ordonnance. Alors, sur ordonnance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'audience pour les personnes. En gros, la CNDA notifie aux personnes un courrier disant qu'on leur refuse leur recours. Tout simplement. Donc, les gens ne peuvent pas s'exprimer et tout. Alors, ces audiences sont complètement insupportables pour tout le monde, mais elles le sont d'autant plus dans ce genre de cas où la présence et l'explication orale de la personne est sacrément importante, parce que ça peut être par exemple compliqué de prouver son homosexualité, sa transidentité ou tout ça à travers des papiers, et en général c'est quand même un truc d'oral et de discours autour de ça qui va réussir ou pas à convaincre les juges lors de la séance. Alors si en plus, enfin déjà oreille qui est peu attentive, mais si en plus on prive ces personnes de ça, et ben écoutez, franchement, le droit d'asile continue de s'effondrer tout doucement. Et ben il est 19h42, le temps pour nous de conclure ce Canu Info par sa fin. Et on voit derrière, et ben c'est le grand retour d'Idées Noires derrière le studio, que vous allez retrouver d'ici un quart d'heure en direct sur ces ondes. Voilà. En attendant, bah merci de nous avoir écoutés.
Et peut-être à la semaine prochaine, mais juste peut-être finalement, puisque on verra. Ah, pendant ce temps, mon collègue est en train d'essayer de retrouver le bouton pour mettre les bandes continues. Ça faisait très longtemps que c'était pas lui qui avait fait la technique.
C'est le générique de fin. Allez, et ben à la semaine prochaine.
Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.